Bonjour, professeur Stéphane Herman, vous êtes PUPH en médecine intensive réanimation au CHU de Tours et aujourd'hui vous allez nous parler de votre étude récemment publiée dans le New England Journal of Medicine portant sur l'utilisation de l'amikacine inhalée pour prévenir les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique. Alors, première question, quel est le rationnel de l'étude ?
Je remercie la SRLF et la commission jeune de la société de m'avoir invité pour enregistrer ce podcast. Et donc, pour répondre à la première question, quel est le rationnel de l'étude ? Eh bien, le rationnel, c'est la pertinence de la voie inhalée pour délivrer des antibiotiques pour traiter la colonisation trachéobronchique qui a lieu au cours de la ventilation mécanique. En effet, chez les patients intubés, eh bien, en raison de la présence du ballonnet de la sonde d'intubation au niveau trachéal, eh bien, ça empêche une clairance mucociliaire correcte, ce qui met les patients sous ventilation mécanique à risque de développer une bronchite, c'est-à-dire une pullulation bactérienne au niveau bronchique qui ensuite peut mener à la survenue d'une pneumonie acquise sous ventilation mécanique, c'est-à-dire une infection parenchymateuse pulmonaire. Ce processus y prend du temps et ça donne l'occasion de pouvoir éventuellement stopper ce processus infectieux de pullulation bactérienne au niveau bronchique. Et l'inhalation d'antibiotiques est particulièrement pertinente pour cet objectif. En effet, par exemple avec l'amikacine, mais ça a été montré avec d'autres antibiotiques également, lorsqu'on les donne sous forme inhalée, c'est-à-dire un aérosol qu'on met dans le circuit de ventilation, eh bien, on arrive à déposer des concentrations extrêmement élevées dans les sécrétions trachéobronchiques. C'est de l'ordre de plusieurs milliers de microgrammes par millilitre d'antibiotiques, donc c'est beaucoup plus élevé que les concentrations minimum inhibitrices. Et donc, c'est vraiment un moyen potentiellement efficace pour stopper le processus infectieux au niveau bronchique avant que survienne une pneumonie acquise sous ventilation mécanique. Et donc, prévenir ces pneumonies, c'est quelque chose d'important parce que, un, elles sont fréquentes dans le monde entier, dans les pays à développer, mais également dans des pays à revenus intermédiaires ou faibles. Ça touche 40%, 5 à 40% des patients intubés en réanimation. Et puis, on dit classiquement qu'il y a 2 à 30 épisodes pour 1000 jours de ventilation mécanique. Donc, c'est quelque chose de très fréquent. Ces chiffres sont très variables, hein, selon la façon dont on recueille les pneumonies. Et puis, l'impact pour les patients est non négligeable. Alors, la mortalité a été très discutée. C'est-à-dire l'impact direct de la survenue d'une pneumonie acquise sous ventilation mécanique sur la mortalité. On peut considérer que c'est quelque chose qui fait débat. Mais ce qui est certain, c'est que ça allonge la durée de ventilation mécanique, la durée de séjour en réanimation. Et donc ça, c'est quelque chose de très délétère pour les patients. Et puis, évidemment, en conséquence, ça augmente les coûts de prise en charge. Donc voilà pour le rationnel de l'étude. Hein, c'est réduire les pneumonies acquises sous ventilation mécanique. C'est quelque chose d'important. Et on pense que l'inhalation d'un antibiotique comme l'amikacine est particulièrement pertinent parce que ça induit des concentrations très élevées au niveau trachéobronchique et donc c'est à même de stopper la pullulation bactérienne à ce niveau pour prévenir la survenue de pneumonie.
Deuxième question, quelle est la méthode de l'étude ?
Il s'agit d'un essai randomisé multicentrique en double aveugle qui a été mené dans 19 services de réanimation en France. Les patients étaient inclus après 72 heures de ventilation mécanique invasive. Les critères d'inclusion étaient très larges. Tous les patients adultes pouvaient être inclus. Les seuls patients qui n'étaient pas inclus étaient ceux qui avaient déjà une pneumonie acquise sous ventilation ou une suspicion, qui avaient une insuffisance rénale sévère, sauf s'ils étaient soumis à une épuration extra-rénale, auquel cas ils pouvaient être inclus. Des patients qui avaient une insuffisance rénale chronique sévère, qui étaient trachéotomisés, qui étaient prévus pour être extubés immédiatement dans les 24 heures qui suivent ou qui avaient besoin d'un traitement par aminoglycoside, par voie systémique. Donc les patients étaient screenés durant les 3 premiers jours de ventilation, puis inclus et randomisés après le 3e jour. Ils ne pouvaient pas être inclus au-delà de 96 heures de ventilation mécanique invasive. Et donc ils étaient randomisés en 2 groupes. Le groupe intervention recevait 20 mg kilo d'amikacine inhalée une fois par jour, 3 jours d'affilée, donc J4, J5, J6 schématiquement, et le groupe placebo recevait du sérum salé isotonique inhalé, même volume, une fois par jour durant 3 jours. Alors, la nébulisation s'est faite avec un nébuliseur à membrane vibrante. Ce sont des nébuliseurs qui présentent un certain nombre d'avantages pour l'utilisation au cours de la ventilation mécanique. En particulier, ils n'induisent pas de gaz additionnel dans le circuit pour fonctionner. C'est-à-dire que c'est juste une membrane qui vibre et qui crée l'aérosol. Et puis, ils ont un rendement assez élevé, c'est-à-dire que l'essentiel de ce qu'on met dans la cuve du nébuliseur est délivré aux patients et réellement nébulisé. Durant la nébulisation, soit les investigateurs pouvaient utiliser un circuit sec relativement optimisé, donc avec un filtre échangeur de chaleur et d'humidité qui était évidemment enlevé durant la nébulisation et qu'il fallait remettre après, ou bien un circuit avec un humidificateur chauffant. Et à ce moment-là, le nébuliseur était placé au niveau du Y du circuit et l'humidificateur chauffant pouvait être laissé en marche ou bien interrompu durant la nébulisation. C'était laissé au libre choix du clinicien. Les réglages du ventilateur étaient laissés totalement libres au clinicien en charge du patient. Au niveau de l'analyse, le critère de jugement principal était la survenue d'une première pneumonie acquise sous ventilation mécanique entre la randomisation et J28, et ce critère était adjudiqué de façon centralisée par un comité en aveugle du groupe de randomisation. Et le calcul d'effectifs montrait qu'il fallait inclure 850 malades pour avoir la puissance nécessaire pour cette étude.
Troisième question. Quels sont les principaux résultats de l'étude et qu'en tirer en pratique courante ?
Le premier résultat, c'est que sur 850 malades inclus, la nébulisation au cours de la ventilation mécanique était extrêmement bien tolérée, puisqu'il y a eu moins de 2% d'effets secondaires graves déclarés dans l'étude. Il y a eu en total 3 bronchospasmes, par exemple, hein, qui est parfois une complication qui est crainte. Voilà, il n'y a aucun problème, par exemple, de bronchospasme. Il y a eu 5 cas d'augmentation des résistances de la branche expiratoire du ventilateur. Ça, c'est un point important que je n'ai pas mentionné dans la méthode. Il y a importance de placer un filtre au niveau du ventilateur, entre la branche expiratoire et le bloc expiratoire du ventilateur, et de le changer après chaque nébulisation pour éviter ce type de dysfonction du bloc expiratoire du ventilateur. Et quand on fait ça, et c'est ce qui a été fait dans l'étude, il y a très très peu de problèmes de ce type, c'est 4 malades sur 805. Alors le résultat principal sur le critère de jugement principal, c'est une réduction significative de la survenue de pneumonie acquise sous ventilation mécanique dans le groupe amikacine inhalée. Et donc cette incidence passe de 22% dans le groupe placebo à 15% dans le groupe amikacine. C'est une réduction qui est statistiquement significative. Et donc c'est une réduction extrêmement importante, hein, puisque c'est 32% de réduction relative. Ça veut dire qu'un tiers des pneumonies ont été évitées. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un malade sur trois qui aurait fait une pneumonie, qui n'en fait pas. Et donc c'est vraiment une réduction extrêmement importante sur ce critère de jugement principal. Alors, il y a des critères de jugement secondaires qui confirment ces résultats sur ce qu'on appelle les ventilator-associated events, qui sont une définition nord-américaine des infections pulmonaires nosocomiales qui se fondent sur des critères plus objectifs d'augmentation de la PEP, de la FiO2, de facteurs inflammatoires et de début d'antibiothérapie. Et donc, sur ces trois types de VAE, Ventilator Associated Events, eh bien, il y a à nouveau une réduction statistiquement significative de leur incidence, donc des Ventilator Associated Conditions, les Infection Related Ventilator Associated Complications, donc c'est quand c'est infectieux, et puis les possibles pneumonies dans ce cadre de définition plus objectif. Donc ça complète tout à fait le critère de jugement principal et ça renforce le message. Il y avait d'autres critères de jugement secondaire qui n'étaient pas statistiquement significativement différents entre les groupes. En particulier, la consommation d'antibiotiques était un peu plus faible dans le groupe amikacine inhalée d'antibiotiques systémiques, hein, mais ce n'était pas significatif. Et la durée de séjour, la durée de ventilation mécanique, la durée de séjour à l'hôpital, la mortalité en réanimation à l'hôpital n'était pas différente entre les deux groupes. Il faut bien comprendre que c'est un résultat qui est attendu, puisque l'essai n'avait absolument pas la puissance pour évaluer ce type de critères de jugement. En effet, il est important de comprendre que même dans le groupe placebo, seuls, si je puis dire, 22% des patients développent une pneumonie. Et donc, ça veut dire que dans les deux groupes de randomisation, la plupart des patients ne développent pas de pneumonie. Hein. Et donc, la plupart des patients ont une mortalité, une durée de ventilation, etc., qui est celle de patients ne développant pas de pneumonie, puisque 80% ne développent pas de pneumonie. Et donc, quand bien même on réduit le nombre de pneumonies de 22% à 15%, eh bien, cette réduction nécessiterait plusieurs milliers de patients pour montrer statistiquement une différence sur la durée de ventilation ou la mortalité. Néanmoins, nous avons comparé les patients qui ont développé une pneumonie et ceux qui n'ont pas développé de pneumonie dans l'essai. Et comme on le sait, hein, les patients qui développaient une pneumonie avaient une mortalité beaucoup plus élevée, avaient une durée de ventilation mécanique invasive deux fois plus longue, une durée de séjour bien plus longue, bien plus d'antibiotiques, etc. Donc il n'y a pas de doute sur le fait que de faire une pneumonie, ce n'est pas quelque chose de bien pour le patient. Et donc l'administration inhalée d'amikacine permet de prévenir la survenue de telles pneumonies de façon significative. Et donc l'implication clinique, et je pense, c'est qu'il faut appliquer les données de la recherche clinique et les données actuelles de la science. Et donc je pense qu'il faut dorénavant appliquer cette mesure à l'ensemble des patients ventilés plus de 3 jours qui correspondent aux critères d'inclusion. Peut-être que si de nouvelles informations émergent, de nouvelles connaissances émergent, les pratiques changeront à nouveau, mais je pense que c'est important quand il y a des nouvelles données faites chez des patients en France qui sont nos patients, eh bien ça me semble important de les appliquer.
Merci professeur Stefan Herrmann de nous avoir parlé des résultats de votre étude amikinale portant sur un sujet d'intérêt en réanimation.